Daniel Habert, avec lequel on se pose une question. À quoi ont servi les 13 jours de bombardement américain sur la République islamique d'Iran? Eh ben, voici sa réponse. Il est au micro, comme d'habitude, de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour notre traditionnelle conversation. 13 jours de bombardement, Daniel, entre les États-Unis et l'Iran, surtout de la part des États-Unis sur la République islamique d'Iran. Cette campagne s'est arrêtée. Pourquoi avoir fait ces 13 jours de bombardement?
Alors, il est clair que, au fond, dès le mois d'avril, pour les Américains, l'essentiel, c'est le détroit d'Ormuz. Celui qui a été fermé, filtré par les Iraniens, bloqué par les Américains, qui a failli causer une crise économique mondiale, donc c'est pas rien. Le MOU, le mémorandum du 17 juin, était une voie de sortie du conflit avec une proposition de deux négociations différentes, une négociation immédiate sur la libération et le déblocage du détroit d'Ormuz, et une négociation plus tard sur le nucléaire. Plus personne aujourd'hui pense qu'on arrivera à un accord sur le nucléaire. C'est dépassé. Personne ne croit aux promesses, quelles qu'elles soient, des Iraniens. Il n'y a pas de possibilité de les contrôler. La compensation à un accord sur le nucléaire serait la levée de toutes les sanctions américaines et donc un enrichissement potentiel de l'Iran qui utiliserait cette nouvelle richesse pour accroître encore son niveau d'agressivité. Donc la concentration se fait sur le détroit d'Ormuz et il est tout à fait normal que les Américains et les Iraniens aient du mal à négocier. Alors, pour lancer cette négociation sur le détroit d'Ormuz et obtenir ce mémorandum, Trump a beaucoup lâché, a fait beaucoup de concessions, au point qu'on disait que les Américains ont été humiliés, que les Iraniens avaient gagné la guerre. Mais c'est la stratégie du fameux dealer qu'est Trump. Si on veut obtenir d'un gouvernement fanatique qu'ils viennent à une table de négociation, faut leur donner beaucoup de cadeaux, faut leur offrir beaucoup, sinon ils viennent pas. Donc il leur a offert beaucoup et à la surprise de tous, les Iraniens ont attaqué malgré ça des navires qui passaient sur la côte omanienne au lieu de passer sur la côte iranienne, ce qui voulait dire que dans l'esprit des Iraniens, ils veulent non pas la liberté de navigation, mais ils veulent l'appropriation du détroit d'Ormuz. Et ça, c'était pas contenu dans le mémorandum. Tout ça était laissé ouvert. Et donc maintenant, on voit ce que veulent atteindre les Iraniens. Ils pensent que c'est la seule armes qu'ils détiennent aujourd'hui, c'est le détroit. D'ailleurs, beaucoup de déclarations ont été faites pour dire que le contrôle du détroit, c'est mieux que la bombe atomique. Donc, ils essayent d'utiliser pour l'instant leur situation pour obtenir encore plus. Et donc, les Américains ont répliqué par une intense campagne de bombardement qui a pour objectif, puisque c'est votre question, quel est l'objectif, de rétablir un rapport de force, un rapport de négociation, pour revenir à un compromis qui est acceptable par tous. Voilà.
Alors, reprenons cette analyse que vous avez faite, Daniel. Mais quelle analyse font les Américains? On sait qu'à la mi-terme, ce qui vont arriver, les Américains, que ce soit dans l'appareil d'État ou les citoyens américains, quelle analyse font-ils de cette guerre?
Écoutez, pour les Américains, libérer le détroit d'Ormuz se fait au nom de la communauté mondiale, parce que eux, ils sont pas les plus affectés par le blocage. Ceux qui sont affectés, c'est les pays d'Asie, la Chine en tête, et évidemment tous les pays qui exportent du pétrole, c'est eux qui sont affectés, et tous ceux qui manquent d'engrais, comme les pays d'Afrique. Donc les Américains ont l'impression enfin, se présentent comme luttant au nom de la communauté internationale qui est intéressée par ce qu'on appelle la liberté de navigation. Et donc l'arrêt des bombardements qui a eu lieu, c'est donnons une chance à nouveau à la négociation pour obtenir ça. Qu'est-ce qu'espèrent les Américains? Le régime, je le disais tout à l'heure, il n'est pas tombé, mais il a changé. À partir du moment où vous n'avez plus le pouvoir au sommet du guide, je rappelle que le guide en allemand, ça se dit Führer, Quand il n'y a plus de fureur, vous avez des sources de pouvoir qui se disputent. Et on voit bien qu'il y a les gardiens de la Révolution, avec probablement un clan de radicaux et un clan de gens plus réalistes. Vous avez le Premier ministre, le ministère des Affaires étrangères, qui eux sont au contact permanent des Américains et qui parlent avec eux et qui sont des gens qui sont peut-être radicaux, mais qui sont des radicaux raisonnables. Et vous avez le Parlement, qui est une autre source de pouvoir, et puis probablement aussi ce comité des experts religieux qui garde un pouvoir quelque part. Donc vous avez plusieurs sources de pouvoir, et donc le fait de mettre de la pression militaire sur eux par les bombardements, dans l'esprit américain, ça accélère la clarification au sein du gouvernement iranien. De temps en temps, Trump dit on ne sait pas à qui on parle, et il a raison. Donc il est important pour eux, pour tous ceux qui veulent voir la paix revenir, qu'on sache avec qui parler. Donc voilà, ça c'est un peu le but des bombardements, et le fait de les arrêter, c'est ben, maintenant, messieurs, mettez-vous d'accord entre vous, et c'est probablement ce qui se passe en ce moment. L'idée quand même fondamentale, c'est de dire aux Iraniens, vous voulez vous approprier le détroit, c'est ridicule. Nous, on est prêts à vous laisser beaucoup de choses. Vous pouvez récupérer une partie de vos avoirs, vous allez pouvoir exporter votre pétrole plus librement, vous allez vous enrichir et vous allez gagner à laisser ça, et ça va vous coûter beaucoup plus cher d'essayer de vous l'approprier. Donc c'est mieux pour vous de revenir à la table de négociation. C'est ça un peu. Et donc, si on revient à la table de négociation, le succès de la négociation va dépendre au fait de trois types de pression. Ça, c'est un peu l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui. Et c'est entre ces trois pressions qu'on va trouver un équilibre. La première pression, c'est les Américains, sa pression interne sur Trump. Il y a les élections, vous le disiez vous-même. Il y a le vice-président qui est hostile à la guerre. Il y a le mouvement MAGA, dont une partie est très isolationniste et qui veut pas que les États-Unis se mêlent des affaires du monde. Donc tout ça, et puis il y a les indicateurs économiques qui sont très importants pour Trump, c'est-à-dire le prix du baril. On voit qu'il n'explose pas. Il y a le prix de l'essence à la pompe pour les Américains, ce qu'on appelle le gallon à 4 dollars. Il faut que ça descende en dessous de la barre des 4 dollars. Il y a le cours de bourse, il y a les taux d'intérêt. Tout ça, c'est très important. Et donc, ça c'est les indicateurs pour Trump. Sur l'économie mondiale, la fermeture du détroit met une pression. Elle met une pression sur les Iraniens, qui sont étranglés, puisque c'est leur voie de sortie, et elle met une pression sur l'économie mondiale, qui paye le pétrole plus cher, qui a peur de pénurie, etc. Et tout ça mène à une troisième pression, qui est la pression extérieure, en particulier celle de la Chine, dont je parle à chaque fois, parce qu'elle est le plus représentative, c'est le plus gros acheteur de pétrole du monde. Et comme c'est l'Asie qui est la plus touchée, c'est évidemment la Chine qui est la plus touchée. Et donc leur intérêt, on le voit bien, il est exactement le même que les Américains pour les Chinois. C'est la liberté de navigation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le MOU qui a été signé le 17 juin, et s'est signé au Pakistan, c'est-à-dire l'ami des Chinois et des Américains. Donc on en est là, et donc au carrefour de ces trois pressions, sur Trump, sur l'économie mondiale et la pression chinoise, on va essayer de trouver quelque chose. L'intérêt des Américains et des Chinois étant assez proche, il est possible qu'on arrive à quelque chose.
Justement, Daniel, on va devoir conclure. Il nous reste une petite minute. Quelles sont les chances de succès, sur cette opération?
On ne les connaît pas, parce que les Iraniens, c'est pas Trump qui est imprévisible, ce sont les Iraniens, et les Iraniens sont imprévisibles parce qu'ils sont divisés, et on ne sait pas le clan qui va gagner. Mais ce qu'on peut remarquer, et ça servira de conclusion, c'est que depuis le 7 octobre 2023, parce que c'est là le démarrage de la guerre avec l'Iran, la guerre avec l'Iran a changé de nature à plusieurs reprises. Et là, on entre dans une nouvelle phase centrée sur le détroit d'Ormuz, où on peut imaginer une guerre qui dure un peu, qui va ressembler à ce qu'on vient de vivre pendant 15 jours, c'est-à-dire chaque fois que les Iraniens essaieraient d'envoyer un drone sur un bateau qui passe, un navire marchand, ils prendraient des bombardements très lourds sur leur ville principale du détroit qui s'appelle Bandar Abbas, qui est une ville très importante, un grand port qui serait détruit. Donc il faut que le coût de l'attaque iranienne soit supérieur au gain. Et donc on aura une sorte de négociation surarmée encore pendant quelque temps jusqu'à ce que les Iraniens se mettent d'accord entre eux et comprennent.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour nos conversations. On se retrouve tout au long de l'été. Merci.
À la semaine prochaine, au revoir.